France Inter.
Et bonjour à tous. Il y a 2 ans et demi, le gazoduc Nord Stream qui acheminait le gaz russe vers l'Europe était la cible d'un sabotage. À l'époque, tous les regards se tournent vers la Russie, mais tout montre désormais qu'il s'agissait bien d'une opération conduite par l'Ukraine et par le sommet de la hiérarchie militaire. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Avec vous, on va donc voir où en est l'enquête et puis nous recevrons Alexis Thibault. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur le merchandising dans le domaine du rock et de la pop, un business qui rapporte désormais beaucoup plus que les concerts et les ventes d'albums.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
Ces énormes bouillonnements agitent désormais la mer Baltique. Des cercles à la surface de l'eau, pour l'instant aussi spectaculaires qu'inexpliqués.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais c'est une situation extraordinaire. Il y a 3 fuites avec une certaine distance entre elles. C'est pourquoi il est difficile d'imaginer que ce qui se passe est une coïncidence.
Voilà un extrait d'un reportage de France 24, diffusé le 27 septembre 2022. On vient de découvrir que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par des explosions et que, selon toute vraisemblance, il s'agit d'un sabotage. Alors il va s'en suivre toutes sortes de spéculations sur lesquelles on va revenir avec vous, Philippe Reltien. Mais d'abord, quelques précisions. C'est quoi exactement Nord Stream ?
C'est comme 2 autoroutes du gaz qui vont de la Russie à l'Allemagne et qui reposent sur le fond de la mer Baltique. Ce sont 4 gaines en acier de 4 cm d'épaisseur, renforcées par 11 cm de béton armé, qui courent sur 1230 km de long. Le projet a coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros au géant russe Gazprom et à ses 5 partenaires, des compagnies allemandes, néerlandaises, autrichiennes et françaises.
Et pourquoi on l'a construit, ce gazoduc ?
Parce que l'Allemagne voulait se passer de ses centrales au charbon. Et pour ça, elle avait besoin de doubler le volume du gaz russe qu'elle importait déjà. Nord Stream 2 devait donc compléter ce que fournissait déjà Nord Stream 1 depuis 2011.
Et donc ça, c'est raté, ça ressemble plutôt maintenant à un vœu pieux. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, Philippe, c'est que ce gazoduc, il passe tout près d'une île qui s'appelle Christiansø.
Oui, une toute petite île au sud des côtes suédoises qui appartient au Danemark et que nous décrit Romain Gubert, notre confrère de l'hebdomadaire Le Point.
Christiansø est une île où vivent 90 personnes, quelques touristes parce qu'il y a 7 chambres dans l'unique maison d'hôte. On a l'impression d'être dans un polar suédois. Le médecin local brasse la bière pour les habitants, tous les habitants participent à la chorale. Quand il y a un anniversaire, il y a la moitié de l'île qui vient. Et puis, il y a ce fameux gazoduc qu'on ne voit pas quand on en marche sur les chemins côtiers parce qu'il n'y a pas de voiture sur cette île. Et cette petite île a été le théâtre, effectivement, d'un James Bond, en fait, qui s'est déroulé cette nuit-là, le 26 septembre 2022.
Et comme dans un James Bond, il y a différents acteurs.
Mais oui, beaucoup de monde semble s'être donné rendez-vous dans les parages peu avant l'explosion du 26 septembre. Il y a d'abord eu des manœuvres de l'OTAN qui se sont terminées le 17 septembre. Et puis on a vu un navire scientifique russe se présenter sur les lieux, comme nous l'explique encore Romain Gubert.
Ce qui est très étrange, c'est que vous avez toutes les grandes puissances qui se rassemblent autour de cette île. Il y a les Américains qui sont en train de terminer un entraînement de l'OTAN. Vous avez les Russes qui sont dans le coin. Vous avez les Suédois qui ont envoyé des avions pour surveiller, des avions de surveillance, parce que c'est une île très militarisée, donc tout le monde se surveille, tout le monde regarde les mouvements des bateaux. Il y a énormément de mouvements, donc ça rajoute au fantasme.
Oui, et ce qui rajoute au fantasme, c'est qu'il y a eu une alerte avant le sabotage.
Effectivement, plusieurs sources confirment que les États-Unis ont été informés par les Néerlandais d'un complot visant le gazoduc quelques mois avant l'explosion. La CIA a reçu une information d'un service de renseignement européen lui disant qu'en juin 2022, une petite équipe de plongeurs équipée d'un véhicule sous-marin devait faire sauter le gazoduc Nord Stream 1.
Oui, Nord Stream 1, sauf que finalement, ce seront les 2 gazoducs qui seront visés, et pas en juin, mais en septembre donc 2022.
En effet, il y aura 4 explosions, et dans la foulée, 3 enquêtes seront ouvertes, une en Allemagne, une en Suède et une au Danemark.
Et très vite, un voilier va faire figure de suspect numéro 1.
Oui, un beau bateau qui s'appelle l'Andromeda. C'est un yacht de 15 mètres et de 7 couchettes qui a été loué le 6 septembre 2022 à une agence de Rostock en Allemagne. Le 19 septembre, l'équipage, composé de 5 hommes et une femme, fait escale dans un petit port polonais pas très loin des chantiers navals de Gdansk.
Ouais, dans un port où les gardes frontières vont d'ailleurs les contrôler.
Oui, mais c'est un contrôle de routine. Les douaniers constatent qu'ils ont des papiers roumains et bulgares qui paraissent en règle. Ils les laissent donc repartir et le bateau va aller faire des trajets assez incompréhensibles entre les îles et le continent, comme le note encore Romain Gubert.
Ce bateau, l'Andromeda, suit un drôle de parcours. C'est-à-dire qu'il part de Rostock, il va directement à Kristiansø. Il ne s'arrête pas sur l'île la plus touristique. Il fait les ronds dans l'eau, là, et puis il repart.
Mais il repart de l'île avant ou après l'explosion ?
Eh bien, il rentre, en tous les cas, 3 jours avant les explosions. L'équipage débarque à Rostock de nuit. À ce moment-là, les bureaux de l'agence de location sont fermés, mais ils seront filmés par les caméras de surveillance.
Ce qui permettra quand même de les voir ensuite. Et qu'est-ce qui se passe juste après ?
Eh bien, la suite, c'est un consortium de journalistes européens qui va la reconstituer. Et Morgan Fermalka, d'Intelligence Online, qui fait partie de ce consortium, nous la raconte.
Notre équipage revient de son voyage en mer Baltique, débarque, ne récupère pas sa caution et leurs numéros de téléphone sont repérés ensuite en Ukraine.
Ah oui, donc vraisemblablement, l'équipage serait parti en Ukraine.
Eh bien, c'est ce qu'il semble. D'autant plus que les témoignages convergent, l'équipage de l'Andromeda qui a été aperçu près de l'île de Kristiansø est bien celui qui a ramené le bateau en Allemagne.
Les employés de port, les skippers, les marins qui étaient là à ce moment-là, confirment avoir vu des équipages qui répondent à cette description. 5 hommes et une femme qui parlaient avec, dans une langue qui était soit du polonais, soit de l'ukrainien, qui est très difficile à distinguer.
Oui, d'autres éléments laissent penser que ce serait bien cet équipage qui a effectivement fait sauter le gazoduc.
Et oui, le parquet fédéral allemand va lui faire procéder à la fouille du bateau. Et en janvier 2023, on va trouver à l'intérieur des traces d'un explosif, du HMX, un acronyme anglais qui veut dire explosif à point de fusion élevé. C'est un explosif très puissant et assez stable pour être transporté et posé par 80 mètres de fond, raconte encore Morgan Fermalka.
Toutes les traces forensiques, les traces techniques retrouvées sur l'Andromeda corroborent l'hypothèse de départ des Allemands en disant que c'est l'Andromeda qui a servi à faire exploser le gazoduc Nord Stream 2.
Ouais, donc pour elle, il n'y a aucun doute, sauf que tout le monde n'est pas aussi affirmatif.
Alors, c'est vrai qu'il y a un faisceau de présomption, au point que dès le mois de mars 2023, des confrères allemands et américains publient des articles qui désignent le voilier. Mais Romain Gubert, du Point, considère, lui, qu'il faut tout de même rester prudent.
Vous savez, l'Andromeda, il est encore sur le port de Rostock. Toutes les polices du monde, tous les services secrets sont allés le voir, ont fait des prélèvements, ont regardé. Alors, il y a des traces de poudre, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, si on a utilisé 2 ans auparavant un fusil à harpon avec une petite réserve pour aller chasser du poisson, eh ben, ça peut être cette poudre-là. Et donc, en fait, on est dans un nuage, on est sous l'eau, on est sous la Baltique, là, sur cette histoire.
Sauf que d'autres éléments vont bientôt venir conforter la thèse d'une implication de l'Andromeda.
Oui, d'abord, on se dit que repartir sans réclamer sa caution, vu le prix de la location, 3 000 € la semaine, ça paraît plutôt louche. Mais nos confrères d'Intelligence Online se sont aussi intéressés à la société qui a loué le yacht aux Allemands. Et ils vont découvrir qu'il s'agit d'une société polonaise baptisée Feria Lvova, qui appartient à un homme d'affaires ukrainien.
Et c'est qui cet homme d'affaires ?
Alors, il s'appelle Rustem Habiboulayev et Morgan Fermalka nous en dit plus sur lui.
Rustem Habiboulayev est un homme d'affaires citoyen ukrainien qui a des affaires en Ukraine, qui est l'entrepreneur derrière une exploitation porcine, plusieurs autres types d'entreprises, ce qui est tout à fait courant d'avoir une activité diversifiée. Ce qui est peut-être moins courant, c'est d'avoir hors du pays, en l'occurrence en Pologne, 3 entreprises au moins, qui sont finalement des entreprises un peu fantômes et qui servent à faire des transactions en cas de besoin hors d'Ukraine et en toute discrétion, puisque le nom de Rustem Habiboulayev n'apparaît pas dans les registres.
Ah, et puis ça peut être pratique aussi pour aller louer un bateau discrètement en Allemagne, par exemple.
C'est ce qu'on peut penser en effet. On a apparemment affaire là à une société écran. mais notre consoeur d'intelligence online a voulu en savoir plus. Elle a donc demandé des explications à Rustem Habiboulayev par écrit, et comme il ne répondait pas, elle s'est rendue chez lui, dans un quartier huppé de Kiev. Mais là, les choses ont plutôt mal tourné.
Il pleut, c'est un samedi matin dans la banlieue de Kiev, et on se demande comment on va sortir. Et à ce moment-là, on entend un bruit de moteur derrière, et c'est Rustam qui sort de sa BMW X3. Il se jette sur moi, il me prend le téléphone des mains et il commence à le piétiner par terre. Donc il a détruit mon téléphone. Il demande à ma collègue d'ouvrir son sac pour voir s'il n'y avait pas des enregistreurs dedans non plus. Donc on refuse. Je commence à faire la courte échelle à ma collègue qui donc grimpe par-dessus un des seuls endroits. Donc c'est une espèce de barrière en tôle un peu coupante sur le dessus qui grimpe et qui retombe de l'autre côté. Je lui lance son sac et moi je me hisse sous le coup de l'adrénaline. Je me hisse tout seul sur cette barrière en m'ouvrant au passage la main droite.
Ah oui, quand même. Et donc, Philippe, elles ont réussi à s'enfuir ?
Oui, heureusement. Et bientôt, un deuxième élément va relier l'Andromeda, le fameux bateau, à l'Ukraine. On savait déjà qu'Habiboulayev l'avait loué via sa société, mais toujours selon Morgan Fermalka, l'enquête va bientôt établir que les passeports de l'équipage étaient des faux et qu'ils avaient été fournis par un certain Kirillo Budanov.
Alors on va expliquer qui c'est.
C'est un homme très haut placé dans la hiérarchie du renseignement en Ukraine. À l'époque des faits, c'est le nouveau chef du service des renseignements militaires du pays. La hiérarchie militaire pourrait donc être impliquée dans le sabotage, nous dit encore notre consoeur.
Kirillo Budanov, donc le chef du renseignement militaire, c'est son service qui a procuré les passeports, les faux passeports utilisés par l'équipage de l'Andromeda, les faux passeports roumains et bulgares achetés auprès d'autorités criminelles de ces pays, de Roumanie, de Bulgarie, pour des sommes allant de 20 000 à 30 000 euros par passeport.
La piste ukrainienne se précise donc, même si, et il faut le dire aussi, ces informations ont toujours été démenties par les intéressés.
Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu que le commando qui a saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2 venait très vraisemblablement d'Ukraine et qu'il a utilisé pour ça un bateau loué dans un port au nord de l'Allemagne, Philippe Reltien, bien posons-nous la question des commanditaires. Qui l'aurait ordonné ce sabotage ?
Alors le 11 novembre dernier, le Washington Post et le journal allemand Der Spiegel avancent un nom. Celui d'un officier des forces spéciales ukrainiennes, le commandant Roman Chervinsky. Eux pensent que ce serait lui qui aurait ordonné et supervisé l'opération.
Et c'est qui, Roman Chervinsky ?
C'est un haut gradé du commandement des opérations spéciales en Ukraine. Quelqu'un qui s'est fait un nom pour s'être engagé contre les Russes au Donbass et pour avoir tenté de capturer des mercenaires de Wagner.
Et ce serait donc lui qui aurait supervisé le sabotage ?
Alors là, à quel niveau, on le verra, les avis divergent. Mais selon Shane Harris, qui est journaliste d'investigation spécialisé dans le renseignement au Washington Post, il aurait effectivement joué un rôle majeur dans l'opération.
Ce que nous comprenons de ce que nous disent nos sources, c'est que Roman Chervinsky était le coordinateur de ce qu'ils appellent l'opération Nord Stream. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que ce n'était pas le concepteur de l'opération, mais il a supervisé son application. Il s'est occupé de sa logistique. C'était une sorte de manager, si vous préférez, plutôt que quelqu'un acteur de l'explosion elle-même.
Ouais, sauf que vous le disiez, Philippe, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette interprétation.
Non, car beaucoup de choses ne collent pas dans cette histoire. Et d'abord, le profil du personnage. Peu avant le sabotage, l'homme avait ordonné une opération militaire qui tourne au fiasco. Il est donc aujourd'hui devenu persona non grata dans l'armée. Écoutez Fidelius Schmidt, du journal Der Spiegel, nous raconter ce qu'a été son parcours durant ces dernières années.
Roman Chervinsky, il a désigné un plan d'enlever un suspect impliqué dans l'affaire de MH17 de la Russie en Ukraine. Deuxièmement, il a désigné un plan de faire enlever des mercenaires du groupe Wagner. Et sa dernière opération, c'était d'essayer de corrompre des pilotes russes de rendre leurs avions aux Ukrainiens. Ils ont fait beaucoup d'argent, 1 million d'euros. Ils avaient trouvé un pilote dont il s'était assez confiant que c'était un vrai pilote qui voulait se rendre en Ukraine. Mais à la fin, ce pilote n'est jamais arrivé, mais l'aéroport prévu a été bombardé par les Russes.
Ah, donc le pilote russe n'a finalement pas fait défection et l'aéroport ukrainien qui devait l'accueillir, lui, a été détruit ?
Oui, l'aérodrome Kanatova au centre de l'Ukraine. Le bilan sera d'un mort et de 17 blessés. Et un mois après, Chervinsky sera poursuivi par la justice. Alors faire de lui le cerveau de l'opération Nord Stream ne colle donc pas, estime la journaliste d'intelligence online Morgan Fermalka.
Chervinsky avait déjà mené l'opération catastrophique des pilotes russes quelques semaines avant Nord Stream 2. On est en juillet-août 2022, la planification de l'opération Nord Stream 2 bat son plein et la personne qui est censée être en charge de cette opération, c'est quelqu'un qui vient de causer une catastrophe et qui quelques mois plus tard sera mis devant les tribunaux militaires pour ça. Chervinsky est connu comme un homme de Poroshenko, donc de l'ancien président, qui est aussi un homme d'affaires, une espèce d'oligarque très puissant avec énormément d'entre-gens partout. Et c'est une manière de brouiller les pistes encore davantage que de jeter Chervinsky sous le bus. Enfin, c'est tout sauf un homme de Zelensky.
Ouais, c'est d'autant moins un homme de Zelensky que dans les émissions où il était invité à la télévision, il disait aussi tout le mal qu'il pensait du président ukrainien.
En effet, Chervinsky est très bavard. Il joue publiquement l'homme du peuple contre le président. Il avait même son fan club quand il s'est présenté au tribunal pour une première audience. Un comportement étonnant pour Fidelius Schmidt, le journaliste allemand du Spiegel.
Imagine en France ou en Allemagne, un commandant des forces spéciales qui va à la télé et il dit, voilà, certains membres de l'entourage du Premier ministre ou du président sont des espions russes, c'est quand même extraordinaire. Il pense qu'il peut se désigner lui-même comme héros de l'Ukraine. Nos collègues qui ont été à la cour, il y a des supporters de Chervinsky qui sont arrivés avec des t-shirts « Free Chervinsky ».
Libérer Chervinsky. Donc Chervinsky à la manœuvre dans l'affaire du gazoduc, on y croit de moins en moins. Et ce, d'autant moins qu'un autre nom est apparu dans cette affaire.
Oui, celui du commandant en chef des forces ukrainiennes au moment des sabotages, Valery Zaloujny.
Alors encore une fois, on va préciser qui c'est.
C'était le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne jusqu'à ce que le président Zelensky le limoge le 8 février dernier, tout en le faisant héros de l'Ukraine. Il a ensuite été nommé, il y a 15 jours, ambassadeur au Royaume-Uni. Les relations étaient très tendues entre Zelensky et lui, d'autant plus que Zaloujny était un chef militaire très populaire dans le pays, qui avait en plus la confiance de Washington, comme l'explique notre confrère du Point, Romain Gubert.
Ce Zaloujny a été formé aux États-Unis, a énormément lui-même de contacts avec les Américains et beaucoup d'Ukrainiens se disent Zelensky, très bien pour aller demander de l'aide, mais aujourd'hui ce dont on a besoin, c'est un véritable chef de guerre qui mène des contre-offensives. Parce qu'il y a des tas de débats sur la contre-offensive vis-à-vis de la Russie. Et donc ça, c'est discuté au Parlement. Et donc aujourd'hui, Zaloujny, c'est un personnage considérable.
Oui, considérable. Et également très proche des Britanniques.
Oui, et ce n'est sans doute pas un hasard s'il est aujourd'hui en poste à Londres. Car les Britanniques l'ont repéré dès sa sortie de l'académie militaire et après l'invasion de la Crimée. Boris Johnson, alors Premier ministre, propose de former les commandos ukrainiens. Valery Zaloujny grimpe ensuite les échelons et il sera distingué par la reine Elisabeth, raconte le spécialiste des questions de défense, Cyril Gélipter.
En juin 2014, le jeune colonel Valery Zaloujny est diplômé de l'Université nationale de la défense ukrainienne et se voit remettre en tant que major de la promotion l'épée de la reine du Commonwealth, donc à l'époque Elisabeth II, par l'ambassadeur britannique en Ukraine, Simon Smith. Vous avez déjà un début de coopération pour la formation militaire entre Ukrainiens et Britanniques. C'est ce que les Britanniques appellent l'opération orbitale, qui a été annoncée fin 2014 et a commencé en 2015.
Donc Zaloujny est proche des Britanniques et des Américains, mais quel rapport avec le sabotage du gazoduc? Quel rôle il aurait pu jouer là-dedans?
Eh bien, les soupçons se portent sur lui parce qu'en 2022, c'est lui qui dirige les forces spéciales. Et la source néerlandaise dont on parlait au début, celle qui a alerté la CIA 3 mois avant le sabotage, affirmait que les 6 plongeurs qui sont soupçonnés d'avoir saboté le gazoduc prenaient leurs ordres directement auprès du général Zaloujny.
Mais si c'est le cas, Zaloujny l'aurait fait avec l'aval de Zelensky ou dans son dos?
Alors c'est toute la question. Mais Shane Harris du Washington Post a son idée sur la manière dont les choses ont pu se passer.
Les spécialistes du renseignement à qui j'ai parlé sont d'accord. Ils disent, bien sûr, ce n'est pas le président Zelensky qui a autorisé ou ordonné cette opération. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas été conduite par des militaires. Et ce que notre source nous a dit dessine plutôt une opération menée par des militaires sans instruction explicite du président Zelensky. En procédant de cette manière, cela permet au président Zelensky de nier qu'il a joué un rôle là-dedans. Souvent, les opérations sous couverture sont conçues de manière à ce qu'on ne puisse pas remonter jusqu'au gouvernement.
Et ça ressemble un peu à ce qu'on avait connu dans les années 80 en France avec le sabotage du Rainbow Warrior. À la différence qu'ici, plusieurs pays étaient apparemment au courant de l'opération, si l'on en croit encore Morgane Fermalka du site spécialisé dans le renseignement Intelligence Online.
Selon nos sources, les services américains savaient très bien qu'il y avait une opération en préparation puisque ce type d'opération de sabotage avait déjà été discuté entre les chefs politiques et les chefs de renseignement de l'Ukraine, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, sous l'impulsion notamment de Boris Johnson qui poussait pour ce type d'opération.
Ah oui, donc selon elle, Boris Johnson était au courant ?
Alors, nous n'avons pas toutes les informations qu'elle a, mais on peut quand même constater que le Premier ministre britannique a créé, juste après l'annexion de la Crimée, une alliance dont fait partie l'Ukraine. Et depuis, les différents services de renseignement travaillent ensemble, il y a eu plusieurs manœuvres conjointes dans la Baltique, et les Ukrainiens achètent les mêmes équipements que les nageurs de combat du Special Boat Service britannique, le SBS, nous dit encore Morgane Fermalka.
Ce SBS forme le 801e régiment du 73e centre d'opérations maritimes de la marine ukrainienne. Et ça, c'est depuis 2014 qu'elle les forme sur divers types d'opérations. Et là, mes collègues ont très bien tracé et très bien documenté comment la marine et les commandos ukrainiens s'équipaient des mêmes types d'équipements que les commandos britanniques, types d'équipements qui sont retrouvés aussi finalement dans les scénarios de l'explosion de Nord Stream 2.
Mais ça veut dire que non seulement l'Ukraine fait figure de suspect numéro un, mais ça veut dire aussi que certaines grandes puissances auraient pu être mises dans la boucle ?
En tout cas, on sait que les Américains ont déconseillé aux services de renseignement militaire ukrainien de saboter le gazoduc, ce qui permet de penser qu'ils étaient au courant. Et Washington n'a pas accusé les Russes du sabotage, alors que certains de leurs alliés, comme la Pologne, soupçonnaient Moscou. Bref, pour Shane Harris, notre confrère du Washington Post, si on met tous ces éléments bout à bout, l'Ukraine devient effectivement le suspect numéro un.
À l'origine, quand Nord Stream a été attaqué, de nombreuses personnes se sont dit « ce sont les Russes qui l'ont fait ». Et il y avait des raisons de le penser. Mais une de mes sources m'a dit « vous savez, le pays qui a le plus intérêt à détruire ce gazoduc, c'est l'Ukraine ». Nous savons par ailleurs que l'Ukraine envisageait de détruire un autre gazoduc en mer Noire. C'est une opération qui a été annulée pour une raison que nous ignorons. Donc l'Ukraine avait un intérêt à détruire une infrastructure qui était utile à la Russie. Et l'unité de Budanov, la division militaire dont il était chargé, a été impliquée dans plusieurs sabotages en Russie.
Ouais, on va rappeler Kirillo Budanov, c'était le patron des services extérieurs ukrainiens au moment de l'opération. Mais l'Ukraine, Philippe, avait vraiment un intérêt à faire ça ?
Eh bien oui, si l'on en croit Thierry Bros, qui est professeur à Sciences Po et spécialiste de la géopolitique du gaz. Parce qu'en perdant son accès direct à l'Europe, la Russie s'est retrouvée affaiblie.
La Russie avait une position extraordinaire avec ses gazoducs, avec la somme de ses gazoducs. La Russie était en position de pouvoir, ce qu'on appelle, inonder le marché européen du gaz, donc de fixer le prix à la hausse ou à la baisse. À la hausse, on l'a vu en 2022, mais aussi demain à la baisse. Aujourd'hui, sans ces tuyaux, la Russie n'est plus en capacité de faire ça. Et donc, je crois que dans la volonté ukrainienne de se battre contre les Russes, il y avait aussi ça.
Voilà. Le sabotage du gazoduc serait donc une des multiples formes prises par la guerre en Ukraine, un prolongement de sa résistance sur un autre territoire, une façon de dire aux Européens, et aux Allemands en particulier, qu'il faut qu'ils cessent d'être dépendants des Russes pour leur approvisionnement en énergie.
Oui, on le précise, Valéry Zaloujny comme Volodymyr Zelensky démentent, eux, toute implication de l'Ukraine. Et puis je précise aussi que tout ce qu'on vient de dire n'enlève rien au fait que dans la guerre en Ukraine, il y a bien un agresseur agresseur et un agressé. Notre propos n'était pas ici de transformer la victime en agresseur, mais seulement d'établir des faits, même si cette vérité peut paraître parfois dérangeante ou contre-intuitive. Voilà donc pour cette première partie, mais surtout, restez avec nous, un t-shirt à l'effigie de Kurt Cobain pour 3 500 €. Eh bien, on va voir dans une deuxième partie que le merchandising dans le domaine du rock et de la pop est devenu un business très rentable.
Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. In the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love.
La comédie musicale Betsy, composée dans les années 20 et revisitée par la chanteuse Lana Del Rey, c'était Blue Sky, un titre qui avait aussi en son temps été interprété par Ella Fitzgerald.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Alexis Thibault, bonjour.
Bonjour.
Pour le magazine Numéro, vous avez-vous réalisé une enquête consacrée aux produits dérivés dans le milieu du rock et de la pop, ce qu'on appelle aussi le merchandising, dont on va voir qu'il rapporte désormais plus que la musique finalement elle-même. Alors déjà, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que ce concept de merchandising, il date d'un moment déjà, il date des années 50.
Oui, exactement, il date de 1955 pour être précis. À l'époque, c'est un fan anonyme de Elvis Presley, qui a eu l'idée d'imaginer un petit t-shirt à l'effigie du King. Et en fait, ça a été vite récupéré par le merchandising, parce que, et par des gens plus haut placés, notamment un monsieur qui s'appelle Henry Saperstein, qui a eu l'idée de développer des produits dérivés. Lui, il travaillait déjà dans le milieu du cinéma, et s'est dit, on va peut-être faire ça avec la musique. Et donc, il est allé voir l'impresario de Elvis Presley, qui s'appelait Tom Parker. Et ils ont monté un deal ensemble, et Elvis récupérait 45% des
produits dérivés.
Exactement. Ouais. Et en fait, 6 mois plus tard, ils avaient déjà engrangé 22 millions de dollars.
Alors ça, c'est le démarrage, et puis l'idée va faire école, va se développer. Il y a deux hommes, notamment un promoteur, Billy Graham, et un homme d'affaires, Del Furano, qui eux vont fonder une société et qui vont industrialiser, on va dire, le processus.
Exactement, ils étaient en train de dîner, et en fait, ils se sont dit, vu que ça fonctionne très bien, pourquoi ne pas envisager quelque chose de plus grand encore, en installant des stands de merchandising directement dans les salles de concert. Comme ça, les gens qui arrivent ont envie de revendiquer leur appartenance à une certaine communauté, un peu comme un supporter dans un stade de football. Et les gens qui sortent de concert, dans l'euphorie du moment, vont acheter. Et ça a très bien fonctionné parce qu'ils avaient un gros réseau. Ils étaient proches de groupes comme Led Zepp ou The Who. Et en fait, ça a cartonné, puisque ACDC, quelques mois, quelques années plus tard, s'est rendu compte qu'ils avaient engrangé davantage d'argent grâce au merchandising que à la vente de billets.
Et ça, c'est un phénomène qui va s'amplifier et se poursuivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les produits dérivés, les revenus des produits dérivés sont supérieurs aux revenus des albums.
Alors, ça dépend des artistes. Pour les artistes les plus puissants, comme je pense.
Oui, quand vous avez une image que vous pouvez effectivement
exactement
convertir en produit.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est avec les artistes émergents, parce qu'en fait, le merchandising leur permet d'avoir une source de revenus tout au long de l'année. C'est-à-dire hors des calendriers promotionnels et hors des dates de tournée. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas sorti d'album, ça ne vous empêche pas d'acheter un t-shirt à son effigie. Et donc ça, les labels l'ont bien compris.
Encore faut-il que l'image soit assez puissante.
L'image, il faut qu'elle soit puissante, il faut que le logo soit fort. on prend les logos des groupes de rock, c'est des logos qui sont très facilement identifiables, donc c'est pour ça qu'on peut les acheter, parce que les gens reconnaissent immédiatement les t-shirts à l'effigie de Metallica, par exemple, ou de Bob Marley. Et en termes d'image, il y a aussi des artistes qui sont pas forcément des artistes très puissants, mais qui sont des artistes très niches. Mais le fait d'arborer quelque chose à leur effigie permet aussi de se façonner une identité. Si je vous prends un exemple, une artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une artiste expérimentale qui s'appelle Arca. Arborer un t-shirt à l'effigie d'Arca, c'est aussi se présenter comme quelqu'un qui écoute une musique niche. Alors que arborer un t-shirt à l'effigie de Francis Cabrel, ça nous met tout de suite dans une image beaucoup plus humoristique.
Est-ce que c'est un peu aussi l'effet tatouage, c'est-à-dire se donner une identité?
Exactement. Et c'est aussi, ça permet, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a un t-shirt à l'effigie de Bob Marley, on a tout de suite une image de cette personne. On se dit, bon, c'est quelqu'un qui aime le reggae, c'est quelqu'un qui a l'air sympathique, ce qui n'est pas forcément le cas.
Alors, vous parlez de Bob Marley, justement, les t-shirts les plus vendus aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans votre enquête, sont à l'effigie de Bob Marley, de Nirvana, Metallica, les Red Hot Chili.
Exactement, et en fait...
Qui sont des groupes autour desquels tournent des légendes aussi.
Alors, non seulement tournent des légendes, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les séries télévisées ont énormément démocratisé certains groupes, et la génération Z les découvre peut-être tardivement. C'était le cas de Kate Bush, qui a été remise sur le devant de la scène grâce à la série Stranger Things, et c'est une chose qui est bien aussi, parce que parfois, certaines personnes disent « Ah oui, mais tu arbores un t-shirt alors que tu connais même pas la chanteuse, t'étais même pas née », et alors, c'est pas très grave.
Alors, ça rapporte énormément aujourd'hui. Le Guardian cite un chiffre, 3,5 milliards de recettes en 2022 de produits dérivés avec des stars dont on parle d'ailleurs à l'occasion de la campagne américaine. Taylor Swift qui fait partie de celles qui vend le plus devant Harry Styles.
Exactement.
Américaine, un anglais.
C'est ça. Et il faut savoir que selon une étude, sur 75 000 concerts enregistrés, une personne sur cinq passait au stand de merch, ce qui est colossal.
Merch, c'est merchandising.
Le merchandising, exactement. Et il y a de plus en plus de grandes enseignes, comme H&M, Pull&Bear, Zara, qui ont développé à leur tour des t-shirts à l'effigie d'artistes, mais aussi la mode, c'est-à-dire les grandes maisons de luxe, qui ont développé ça. Il y a par exemple Balenciaga qui a sorti un t-shirt à l'effigie de Rammstein, ou Saint Laurent qui a sorti un t-shirt à l'effigie de Nirvana, qui était vendu à 3500 euros.
Ouais, alors justement, quand j'ai lu ça, 3500 euros pour un t-shirt de Kurt Cobain. Qui achète ça?
Qui achète ça? Des stars comme Jennifer Lopez, Hailey Bieber.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce t-shirt?
C'est un t-shirt Saint-Laurent, davantage qu'un t-shirt Kurt Cobain, je pense. il n'a rien de particulier, sinon imposer un statement.
D'ailleurs, c'est une tendance à laquelle on assiste, finalement. Chacun y va de sa création un peu personnelle. Bon, Saint-Laurent, c'est une extrême. Mais vous citez la chanteuse Pomme, par exemple, qui crée elle-même des vestes inspirées d'un bleu de travail en édition limitée. Donc ça aussi, c'est des produits dérivés, mais qui sont plus personnalisés.
Exactement, parce qu'en fait, l'objet le plus vendu, c'est un t-shirt noir ou blanc ou une casquette. Mais il a fallu aussi que les artistes se différencient du reste avec des choses peut-être plus insolites. Pomme, elle est très proche de certaines maisons, mais elle est surtout très impliquée dans la cause de l'écologie, du développement durable. Donc, elle a proposé des bleus de travail recyclés, parce qu'il y a une dimension écologique qui est très importante pour les artistes, notamment parce qu'aujourd'hui, sortir un objet de merchandising... Il faut qu'il soit vert, il faut qu'il soit pas trop cher, parce que sinon...
Il faut qu'il soit bio.
Il faut qu'il soit bio, parce que sinon, les gens vont vous tomber dessus très vite sur Twitter. Vous vendez un sweat à 80 euros qui a été imaginé au Bangladesh, c'est pas très green, quoi.
Donc, faut que ça rapporte beaucoup, mais en même temps, faut que ce soit éthiquement supportable.
Exactement. Ou alors, il faut que ce soit tellement insolite que ça... suscite le
c'est en même temps en fait hein. C'est en même temps, faut que c'est du business.
Exactement.
Il faut que ça rapporte énormément, et en même temps il faut que ça corresponde à des critères écologiques, éthiques
aussi, surtout parce que certains artistes développent par la suite leur propre marque. C'est le cas de Aurel San, qui est parti du merchandising pour créer sa marque Avenir. C'est le cas du label de hip-hop de rap français Don Dada, qui a développé la marque Don Dada Athletics, qui est l'une de celles qui marche le mieux en France. Et c'est le cas d'artistes outre-Atlantique comme Erykah Badu.
Mais ça veut dire qu'on est sorti du système du t-shirt à 10 euros pour rentrer dans un système en fait de plus de niches et beaucoup plus cher.
Beaucoup plus cher. La moyenne des prix est autour de 40-50 euros sur les stands de merchandising. Et en fait, il y a certains départements qui ont été créés spécialement dans les labels pour s'occuper de ça. Et en fait, il s'avère que si vous vendez quelque chose de trop cher, il faut que vous soyez une superstar.
Et puis, il y a des initiatives complètement farfelues. On va d'ailleurs terminer avec ça. La chanteuse de soul, Erika Badu, par exemple, vend des bâtons d'encens qui, soi-disant, diffusent l'odeur de ses parties intimes. Ça vaut $50 la boîte de 20 bâtons, donc c'est pas rien. Et c'est parti en une vingtaine de minutes.
C'est parti d'une vingtaine de minutes. Elles vont, alors elles vendent pas que ça, elles vendent aussi des suites, des.
Ouais, enfin,
des
ça, bonnets. C'est du délire.
Mais ça, c'est assez délirant, mais c'est assez drôle. Et ça, en fait, ça a fonctionné parce que ça correspond vraiment au personnage, Erika Badu. Erika Badu, c'est, non seulement c'est une incroyable artiste, mais en plus, c'est un véritable personnage qui met de l'encens sur scène avant de chanter. Et il y avait des gens qui disaient que son vagin était irrésistible à n'importe quel homme. Donc, elle a voulu jouer de ça. Et ça a fonctionné visiblement.
Il y a Miley Cyrus aussi, la chanteuse américaine, qui, elle, propose des préservatifs en produits dérivés.
Exactement, des préservatifs en produits dérivés. Et en fait, ce côté insolite est quelque chose de très important pour les artistes, notamment en France aussi, où Gaspard Auger, le membre de Justice, vendait des cymbales avec ses albums, où Mid, l'artiste électronique, vendait des serviettes de plage. Donc on a un rapport entre l'objet de merchandising et les personnages publics des artistes.
Bon, on va continuer quand même d'aller au concert, sans forcément acheter d'ailleurs, simplement pour aller écouter la musique. Merci Alexis Thibault, et pour beaucoup. Ceux qui voudraient aller plus loin, je précise que votre enquête sur les dessous délirants, vous voyez, c'est même pas moi qui le dis, j'avais oublié votre titre, mais les dessous délirants du merchandising, je vous cite, et donc à lire en accès libre, ça se trouve sur numero.com.
Exactement.
Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Thomas Langlin et Julien Thévenot. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.